Bonjour à tous et à toutes. Bonne année, bonne santé, bien entendu. À propos de santé, la mienne n'est pas terrible. J'espère qu'on m'entendra bien. Les micros ont l'air de bien fonctionner aujourd'hui. Donc, bonne année. Alors, j'ai vu un dessin humoristique qui représente des personnes qui s'abritent derrière un mur, un coin de mur. Puis il y en a un qui tend une perche pour aller ouvrir une porte sur laquelle il y a écrit 2022. Les Français sont pessimistes. C'est vrai que bon, le Covid n'est pas vaincu. Il y a les élections, les campagnes électorales débutent dans une certaine hystérie, mais nous avons espérance et la confiance. Voilà. Et en août, comme vous le savez, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu et de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Frère. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit. Je vous invite à entrer dans ce moment de culte en vous levant et en chantant le premier spontané qui est sur les feuilles blanches, sur tous les peuples dans la nuit. J'ai oublié de préciser que, comme tous les dimanches maintenant, nous sommes filmés. Enfin, moi, je suis filmé, mais vous êtes entendu. C'est diffusé en direct sur Facebook, et après, ça reste en mémoire sur le site de la paroisse. Donc, nous entrons dans la louange. Nous te louons, Seigneur. Tu nous as aimés dès le commencement, dès avant nos pères et nos mères, dès avant les débuts obscurs de l'humanité. Tu nous as aimés le premier. Nous te louons pour Jésus le Christ, qui nous a proclamés la bonne nouvelle du royaume. Et nous poursuivons notre louange en chantant le psaume 25, les trois premières strophes, 1, 2, 3, donc du psaume 25, « À toi, mon Dieu, mon cœur monte ». Comment le Seigneur veut être aimé. Matthieu rapporte qu'un pharisien, docteur de la loi, posa cette question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. » Et voici le second commandement qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Ta grâce et ta vérité. Reconnaissons notre péché. Pardonne-nous, Seigneur, car comme Paul, nous faisons si souvent le mal que nous ne voulons pas faire, et nous ne faisons pas le bien que nous voudrions faire. Pardonne-nous nos silences quand il fallait parler. Pardonne-nous nos vaines paroles quand il fallait agir. Pardonne-nous d'avoir confondu ton évangile avec nos prétendues sagesses. Pardonne-nous d'avoir limité notre service à ceux qui nous plaisent, et de ne pas avoir aidé ceux qui nous sont indifférents ou hostiles. Pardonne-nous et aide-nous, afin que nous apprenions chaque jour à mieux t'aimer et mieux aimer notre prochain. Je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce du pardon. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume, et nous chantons notre reconnaissance avec le cantique 177, qui est un chant de Noël, donc connu dans le monde entier, chrétien. Au moment d'ouvrir ton livre, Seigneur, nous te prions. Nous te prions de nous donner la foi et l'intelligence de ces textes que les hommes, entre le Xe siècle avant notre ère et le premier siècle après la naissance de ton Fils, ont rédigés, inspirés par toi, mais qu'ils ont pu percevoir et transcrire à travers le prisme des époques où ils vivaient. Permets-nous de percer le brouillard du temps. Je vous invite à écouter deux textes qui sont très proches l'un de l'autre. Le premier, c'est celui que je vais commenter tout à l'heure. Autrefois, l'épiphanie, c'était le 6 janvier. Maintenant, année liturgique, l'épiphanie, c'est le premier dimanche de janvier. Je ne sais pas comment ils feront l'an prochain, puisque le premier dimanche de janvier sera aussi le jour de l'an. Enfin bon. Bref, c'est donc un texte que vous connaissez bien. Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler secrètement les mages, se fit préciser par eux l'époque à laquelle l'astre apparaissait et les envoya à Bethléem en disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que moi aussi j'aille lui rendre hommage. » dit-il sournoisement, c'est pas ce qu'il écrit. Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route et voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Ouvrant leur coffret, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Seconde lecture, que j'ai choisie par comparaison, c'est le même événement mais raconté de façon très différente. C'est dans Luc chapitre 2, versets 1 à 20. Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste, vous le connaissez tous, c'est celui qu'on utilise en général pour Noël quand il y a les petits-enfants, pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David, qui s'appelle Bethléem en Judée, parce qu'il était de la famille de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota, et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôte. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. » Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. » Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant, et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en cherchant le sens. Puis les bergers s'en retournèrent chantant la gloire et la louange de Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, en accord avec ce qui leur avait été annoncé. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds. Guide-nous par ta parole. Aide-nous à la comprendre tant de siècles après et qu'elle éclaire chaque jour de nos existences. Comme les rois mages en Galilée suivaient les dieux, des yeux, l'étoile du berger. Voilà ce qui arrive lorsqu'on écrit une chanson avec une référence biblique et que l'on n'a pas relu le texte biblique en question. Les mages ne sont pas des rois. La tradition qui a fait que c'était des rois mages, chez l'un, il n'y est pour rien, là. Je pense que c'était peut-être afin de convaincre les rois suivants, pas mages du tout, de s'incliner devant la papauté, tout comme les mages s'étaient inclinés devant Jésus. Il n'y a pas que ça. C'est pas partout pareil. En anglais, on dit « wise men », les sages. Mais en Espagne, en Allemagne, ce sont les rois. Autre chose, ça ne se passe pas en Galilée, hein, mais en Judée. Nazareth, c'est en Galilée. Bethléem est en Judée. Et si on suit l'étoile du berger, on finit par tourner en rond dans le désert comme les Dupont. Pour revenir donc aux fondamentaux, mais pas au fondamentalisme, je vous propose de reprendre le texte de Matthieu et voyons ce qu'il nous raconte. Alors d'abord, les personnages en présence. Hérode. Ah, il s'agit de Hérode le Grand, qui était ethnarque. Ethnarque, ça veut dire chef du peuple. Ethnarque du peuple juif, qui avait été nommé roi ami de Rome par Marc-Antoine. Hérode était un grand bâtisseur. C'est lui qui a restauré et augmenté le temple de Salomon, peut-être pour s'attirer les bonnes grâces de ses nouveaux sujets. Les travaux furent achevés après sa mort. Ils n'ont pas duré longtemps, puisque l'armée de Titus a détruit le temple en 70. Comme vous savez, il reste un vestige impressionnant du temple d'Hérode, c'est le mur des lamentations. Un mur de soubassement du temple. C'était aussi un potentat tyrannique. Il a fait tuer plusieurs de ses enfants et une de ses épouses. Comme tout dictateur, en effet, il était paranoïaque. On peut noter parmi ses successeurs Hérode Antipas, qui fit exécuter Jean-Baptiste, et Hérode Agrippa, qui persécuta les chrétiens, ainsi que la chère princesse Bérénice, qui a inspiré Corneille et Racine. Au passage, on peut noter qu'il est mort en 4 avant Jésus-Christ, et que donc notre calendrier chrétien est entaché d'une erreur de calcul dès le début. Si on se fie au récit de Luc, Jésus est né pendant le recensement de Quirinus, c'est-à-dire en 6 après Jésus-Christ. Ça fait 12 ans d'écart entre les deux versions. Alors quant aux mages, les mages sont des astrologues venus d'Orient, sans doute de Babylone. Nous ne savons pas du tout combien ils sont. 3 peut-être. 3 parce qu'ils apportent 3 cadeaux, mais nous ne connaissons pas leur nom. Et il n'y a pas un Africain, un Asiatique et un Caucasien. Au dernier verset de l'épisode, ils repartent vers leur pays au singulier. Tout le reste vient de la tradition. Alors, nous plaçons ces sympathiques inconnus dans nos crèches pour Noël. C'est un contresens, d'ailleurs, puisque l'étable et la crèche, c'est la mangeoire. Hein. C'est dans le récit de Luc. Les mages, eux, ils sont dans le récit de Matthieu. Et dans le récit de Matthieu, Jésus naît dans la maison de Joseph. Alors, comment sont-ils arrivés là? Ils n'ont pas suivi d'étoile. Ils ont vu une étoile se lever dans leur pays, signe de la naissance d'un grand personnage, et ils ont conclu qu'un roi des Juifs était né ou allait naître. Ils se sont mis en route. L'étoile est seulement revenue indiquer la maison de Joseph, car c'est Hérode qui les a envoyés vers Bethléem. Les mages sont en général mal vus dans la Bible. Ce sont des magiciens, des charlatans, des sorciers. Et on les oppose aux prophètes, qui eux sont de grands hommes de foi. Vous vous souvenez de Simon le magicien, ce personnage louche et intéressé. Mais là, ce sont de bons mages. Qu'ont-ils à nous dire, ces bons mages, ou plutôt, que veut nous dire Matthieu à travers cette histoire? Si vous le permettez, je ne vais pas suivre la chronologie, je vais commencer par la fin. Divinement avertis en rêve, ils ont regagné leur pays par un autre chemin. Ils ne sont pas allés révéler à Hérode où se trouvait le roi des Juifs. Le nouveau-né aurait été en danger, bien sûr. Vous savez que Hérode, frustré, et comprenant qu'il avait été joué, a ordonné le massacre des innocents, tuer tous les garçons de moins de 2 ans du coin pour se débarrasser d'un potentiel rival au trône. C'est le premier thème donc que je vois, c'est la désobéissance civile même. Les mages ont donc désobéi à l'ordre royal. Il faut parfois désobéir à un ordre injuste. Les sages-femmes égyptiennes, dans le livre de l'Exode, ont désobéi à Pharaon et n'ont pas tué les enfants juifs. Matthieu a d'ailleurs très consciemment reproduit dans son évangile plusieurs épisodes de la vie de Moïse. Et c'est parce qu'ils ont obéi, ou seulement obéi, que les accusés à Nuremberg, Weichmann, ont été condamnés. Je ne vais pas vous dire que la loi de Dieu est supérieure à la loi civile, ça c'est une polémique récente. Dans une démocratie, un état de droit, en principe, il n'y a pas opposition entre ces deux corpus juridiques. En principe. Ça peut parfois être long quand même, à concilier les deux. Un exemple, un seul. Vous avez entendu parler de M. Cédric Héroux, celui qui a aidé, à partir de 2016, des réfugiés venus d'Italie et même de plus loin, après qu'ils aient passé les Alpes. Il a été interpellé, jugé, pour aide au séjour irrégulier d'étrangers en France. Il a fini par être relaxé. Il a fallu un arrêt du Conseil constitutionnel, 6 juillet 2018, un changement législatif, un arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 2018 et un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 31 mars 2021 pour que le délit de solidarité disparaisse de notre droit. Enfin, il a disparu, donc on peut concilier. Cédric Héroux n'agissait pas ainsi parce qu'il avait été divinement informé en songe. Je ne connais pas du tout ses convictions religieuses. Mais c'est la même chose. Le devoir d'humanité et de solidarité découle de principes humanistes, les mêmes que ceux que Dieu nous a enseignés en disant d'aimer son prochain comme soi-même. Alors, revenons à notre texte de l'Épiphanie. Où est le roi des Juifs ? Des mages, donc des astrologues, ont vu se lever une étoile. Leur science, car pour eux c'était une science, leur a fait comprendre que c'était un signe annonçant la naissance du roi des Juifs. En bonne logique, ils se sont dirigés vers la capitale, Jérusalem, et le palais royal, et ils ont rencontré Hérode. Ce sont donc des païens qui, en quête d'un roi, vont se retrouver dans la maison d'un modeste charpentier de Bethléem, Joseph, qui est quand même le descendant lointain de David. Ils vont faire des cadeaux à l'enfant, or, qui symbolise le pouvoir royal, l'encens, qui symbolise le pouvoir religieux, et la myrrhe, qui est une annonce de la croix, puisque la myrrhe, ça sert à l'embaumement des cadavres. C'est la foi qui les a conduits là, alors que ce sont des païens, et même des magiciens, des sorciers. Le roi, le vrai, Jésus, n'est pas dans un palais. Il est dans une modeste maison. C'est un nouveau-né, fragile, menacé. Cet épisode met le christianisme sous les signes, dès sa naissance, de l'universalisme, de l'humilité et de la précarité. Hérode, lui qui est juif, enfin, bon, en principe, il est chef des juifs, mais ce n'était pas un très bon croyant, il avait à sa disposition les écritures dans sa bibliothèque, et il commandait aux scribes et aux prêtres. Mais il était au courant de rien, et lorsqu'on lui signale cette vérité, il décide de la supprimer. La richesse de cet épisode, c'est justement de mettre en parallèle les mages, païens, éclairés, ayant compris spontanément la vraie royauté de Jésus, et Hérode, roi des Juifs selon la loi civile, qui lui n'y a rien compris et se sent menacé. Le royaume de Jésus n'est pas de ce monde, c'est Jésus qui le dira lui-même à Pilate bien plus tard. C'est pour ça l'intérêt de cet épisode, c'est que ça nous offre le choix entre deux attitudes. Nous pouvons rester dans notre palais, nos habitudes, refuser la réalité de l'Évangile, comme Hérode, et nous pouvons aussi agir comme les mages. Notre étoile à nous, c'est l'Évangile. Allons à sa rencontre. Amen. Thank you.
Confessons la foi chrétienne.
Seigneur, nos confessions de foi sont toutes maladroites, incomplètes. Elles ne sont faites que de pauvres mots humains, mais elles constituent néanmoins un pas chancelant, forcément chancelant, vers ta vérité. J'ai trouvé cette confession de foi un jour dans un recueil de chants, je ne sais même pas d'où elle vient. Pour le monde et pour moi, j'ai confiance en Jésus de Nazareth. Il est le seul sauveur et maître. Il a été l'homme véritable, comme nul homme ne peut l'être par lui-même. Il est mort sur une croix pour les autres et pour le monde, comme pour moi. Il est ressuscité. Il est présent pour tous les hommes et pour les servir. Il appelle son Église sans tenir compte de nos distinctions. Il agit par les hommes dans l'histoire pour l'amener à son but, un univers réconcilié dans l'amour. Ainsi, je ne crois ni à la fatalité de la guerre, ni de la haine, ni de la catastrophe, ni de la mort, parce que je crois que Jésus libère l'homme pour des décisions libres. Cela pourra prendre du temps, mais j'y crois. Grâce à lui, ma vie a un sens, l'univers aussi. Pour le monde et pour moi, j'espère en Jésus de Nazareth. Il vient. Et nous chantons le spontané suivant. Comment te reconnaître ? Mais c'est le temps des annonces. Pour dire, c'est encore une période creuse. Dimanche prochain, c'est notre pasteur Dominique Hernandez qui présidera le culte. Eh bien, voilà une bonne question. Est-ce qu'il y a cantate ce soir ? Ah, oui. Premier dimanche du mois, oui. 17h30. Donc, comme d'habitude, il faut mieux venir avant. Certains m'ont dit qu'il y a plus de monde pour la cantate que pour le culte. Et bien maintenant, le moment que vous attendez tous, c'est l'offrande. L'offrande qui est un moment liturgique, hein, aussi important que les autres. Ce n'est pas seulement la charité, l'Église ne fait pas la manche, c'est un moment liturgique. Ça permet à l'Église de vivre, de faire connaître la parole et d'aider les plus démunis. Pendant l'offrande, donc, je vous invite à chanter le cantique 166, debout. Viens vers nous, Emmanuel. Interdit de chanter pendant le fond. entrons dans le moment de l'intercession. Notre Père, nous te prions pour celles et ceux qui ont faim. Fais-nous découvrir la joie du partage. Nous te prions pour les immigrés et les exilés. Prépare-nous à les accueillir avec toutes leurs différences. Nous te prions pour ceux qui sont seuls. Conduis-nous à leur rencontre. Nous te prions pour les prisonniers. Rappelle-nous qu'ils ont droit au respect. Nous te prions pour les malades. Inspire-nous de leur offrir notre appui. Et nous te prions, dans le secret de nos cœurs, pour ceux qui nous sont chers. Et nous voulons te redire tous ensemble la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Je vous invite à vous lever. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous invite ainsi. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns, à leur insu, ont logé des anges. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités, car comme étant vous aussi dans un corps. Spontané esprit de lumière. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Nous allons quitter ce temple, retrouver la vie quotidienne, nos habitudes, nos joies, nos soucis. Annoncer partout la bonne nouvelle de la liberté, de l'intelligence, de la venue du royaume, de la grâce du salut. Que le Seigneur de la paix vous accompagne et vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Bon dimanche.